Il est 7h.
George Floyd's story has been the story of black folks.
L'histoire de George Floyd, c'est l'histoire des Noirs. Ça fait 401 ans que vous avez votre genou sur notre cou. Cérémonie à la mémoire de George Floyd, hier à Minneapolis, la même où cet homme noir est mort lors de son arrestation. Le cercueil va partir pour un périple aux aires d'hommage national. 4 scénarios pour la suite du déconfinement, mais les experts excluent un nouveau confinement généralisé. Quant aux soignants, ils appellent à la mobilisation le 16 juin, déjà mécontents du Ségur de la Santé. Ma petite entreprise connaît pas la crise. Coup de projecteur sur un éditeur de logiciels qui embauche en ce moment.
On se sent un petit peu privilégié. Quand on voit la situation en France, il y a beaucoup d'entreprises qui ont un peu de mal à s'en sortir, alors qu'ici, ça, ils arrivent quand même à recruter.
Le plan de relance allemand de 130 milliards creuse l'écart avec la France. Ce sera l'éclairage éco de Nicolas Barré. Et puis Versailles prépare sa réouverture. Demain, un château bichonné pendant 3 mois.
Les lustres ont été dépoussiérés, les miroirs ont été nettoyés. Le dernier grand nettoyage de cette nature a eu lieu, je crois, en 2007.
Juste après ce journal, quelles conséquences aura eu le confinement sur la santé mentale des enfants et adolescents? Votre rendez-vous santé avec Jimmy Mohamed, 7h15, l'innovation à Nice Mbida qui vous propose un purificateur d'air pour cyclistes. Et enfin, le foot amateur en grand danger, menacé par les professionnels, nous dira Virginie Fulpin dans son édito sport après 7h20. Très bon réveil à toutes et à tous, il est 7h02, vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, Hélène Zélani.
8 minutes et 46 secondes, le temps de l'agonie de George Floyd. Hier soir, devant son cercueil à Minneapolis, l'Assemblée a respecté 8 minutes 46 de silence lors d'une cérémonie particulièrement émouvante dans la ville où cet homme noir a été tué par un policier blanc. Xavier Yvon, vous êtes le correspondant d'Europe 1. C'est le début d'un périple qui conduira la dépouille jusqu'à Houston, au Texas, où les funérailles sont prévues la semaine prochaine.
Le dernier voyage de George Floyd prend des allures de funérailles nationales. Première étape hier à Minneapolis. Devant le cercueil doré, le maire blanc de la ville s'agenouille et fond en larmes. Puis le révérend Al Sharpton, figure de la lutte pour les droits civiques, élève George Floyd au rang de symbole universel.
L'histoire de George Floyd, c'est l'histoire des Noirs. Ça fait 401 ans que vous avez votre genou sur notre cou. Ce qui est arrivé à Floyd arrive tous les jours dans ce pays. Dans l'éducation, dans la santé, dans tous les domaines de la vie en Amérique. Il est temps pour nous de se lever et de dire « virez vos genoux de nos coups ».
La dépouille de George Floyd va désormais prendre la direction de la Caroline du Nord, où il est né. Dans ce sud encore imprégné de son passé esclavagiste, cérémonie prévue demain. Enfin, le cercueil doré arrivera à sa destination finale, Houston, la grande ville du Texas, où vit la famille de George Floyd. Hommage public lundi, obsèques privées mardi, avec la présence annoncée de Joe Biden, l'ancien vice-président de Barack Obama et candidat à la Maison Blanche. New York, Xavier Yvon, Europe 1.
Et justement, je vous le disais, à 8h30, c'est le chef de la police de Houston, au Texas, qui sera l'invité de la matinale d'Europe 1. Rendez-vous 8h30, tout à l'heure.
Et puis une autre vidéo virale enflamme les réseaux sociaux, prise lors d'une manifestation près de New York. On y voit un policier pousser un homme âgé qui tombe en arrière, perd connaissance et saigne de la tête. 2 policiers ont été suspendus.
À Lille, une manifestation contre les violences policières a réuni au moins 2000 personnes hier soir. Rassemblement non déclaré qui réclamait justice pour Adama Traoré, décédé après son arrestation il y a 4 ans.
Des heurts ont éclaté avec les forces de l'ordre. Et puis dans cette affaire, la famille d'Adama Traoré demande que l'inspection générale de la gendarmerie nationale soit dessaisie de l'enquête au profit de la police.
Maintenant que le coronavirus semble s'éloigner, comment anticiper la suite? Pour répondre à cette question, le Conseil scientifique vient de présenter au gouvernement ses 4 scénarios pour le déconfinement.
Les experts développent les différentes hypothèses, Eve Roger, de la plus optimiste à la plus catastrophique, sans en privilégier aucune.
Premier scénario, et c'est le plus favorable, il ressemble à celui qu'on est en train de vivre. Le virus circule encore un peu avec des clusters ici et là, mais il est sous contrôle. Pour les experts, la vie normale pourrait reprendre dans les 6 mois, avec la fin du télétravail recommandé et une rentrée scolaire de septembre plus complète. Deuxième scénario, moins favorable, l'apparition de clusters dits critiques, comme celui du rassemblement religieux à Mulhouse, ça veut dire incontrôlé. Là, des mesures s'imposent, mais seulement pour les populations concernées. Troisième scénario, l'épidémie revient masquée, à bas bruit, mais sur l'ensemble du territoire. Là, il faut déclencher les grands moyens, un plan destiné à protéger en priorité les seniors, mais aussi les précaires et les habitants des grandes villes, mais pas de reconfinement généralisé en vue. Seul le quatrième scénario, la perte du contrôle de l'épidémie, l'esquisse, mais ce serait un échec, disent les scientifiques, réticents à l'idée d'un reconfinement imposé à tous à cause des conséquences économiques et sociales.
Et d'ailleurs, Eve, ce matin dans le journal Le Parisien, le professeur Delfraissy affirme que quoi qu'il arrive, on ne pourra pas refaire un confinement généralisé en France. Le prix à payer est trop lourd. Ils ont été applaudis tous les soirs, auront droit à des médailles et à un hommage le 14 juillet. Et pourtant, les personnels de santé sont amers. En plein Ségur de la santé, plusieurs syndicats et collectifs hospitaliers appellent à une mobilisation le 16 juin.
Bonjour docteur Sophie Crozier.
Bonjour.
Merci d'être l'invitée d'Europe 1 ce matin. Vous êtes neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, représentante du collectif Interhôpitaux. Elle va prendre quelle forme cette mobilisation? Vous ne pouvez pas manifester?
Non, effectivement, on est en train justement de réfléchir à d'autres modes de mobilisation. Mais ça nous paraît effectivement très important aujourd'hui de montrer qu'on reste très mobilisé, même si on participe actuellement à cette concertation qui est le Ségur de la santé, parce qu'on est un peu dubitatif et en tout cas très inquiet du fait qu'on n'ait toujours pas en fait d'annonce très claire sur les moyens nécessaires pour sauver l'hôpital public. Il faut que le gouvernement puisse traduire très rapidement maintenant en acte les paroles du président. Il y a un plan massif qui a été annoncé et en fait effectivement ce qu'on entend et ce que vous disiez, on entend des annonces et même des décrets qui passent pour avoir des chèques vacances, des médailles, un défilé avec un hommage le 14 juillet, et c'est assez inquiétant par rapport à la situation actuelle de nos hôpitaux. Je pense que la situation était difficile avant la crise du Covid, hein, comme vous savez, et ça s'est pas du tout amélioré maintenant, c'est même pire. Et donc nous, on se mobilise pour demander en urgence évidemment une revalorisation salariale pour pouvoir recruter, parce que sans revalorisation salariale, sans revalorisation des carrières, on ne pourra pas recruter du personnel en nombre suffisant. Et il faut un vrai plan d'attractivité aujourd'hui pour avoir du personnel au lit des malades et arrêter de fermer des lits et pouvoir accueillir les patients dans des conditions de qualité et de sécurité suffisantes. Donc tout ça, on le dit depuis plus d'un an, comme vous savez. Donc on reste là aujourd'hui très inquiet sur l'absence de mesures. Je rappelle qu'il y a déjà eu des annonces en fait, notamment pour les entreprises, ce qui est une très bonne chose, ou d'autres milieux. Il y a 110 milliards d'euros annoncés pour les entreprises et pour l'instant, on n'a rien comme annonce concrète, en dehors effectivement des médailles et des chèques vacances.
Ouais. Un moyen donc de maintenir la pression aussi. Merci docteur Sophie Crozier, membre du collectif Interhôpitaux. Merci d'avoir été en direct l'invité du journal de 7h d'Europe 1 ce matin.
Et j'ajoute que selon les informations d'Europe 1, la prime exceptionnelle pour les soignants va être élargie à l'ensemble du personnel médico-social, y compris celui du secteur privé. Elle atteindra 1 000 à 1 500 euros.
Europe 1, il est 7h08.
40 milliards d'euros pour aider les secteurs les plus en difficulté à cause de la crise. C'est le nouveau budget rectifié pour 2020. L'automobile, le tourisme ou encore l'aéronautique qui doivent en bénéficier.
Et pourtant, malgré la crise, certaines entreprises parviennent à tirer leur épingle du jeu. C'est le cas de Sarbacane, une PME installée à M, à côté de Lille. Cet éditeur de logiciels pour gérer l'envoi de SMS et de mail marketing est en plein essor et il recrute. Reportage de Maximilien Carlier.
Un open space vide, personne sur les bureaux. Une image typique du télétravail, celui qui fait la croissance exponentielle de Sarbacane. Car quand la France est à l'arrêt, comme pendant le confinement, seuls restent les outils numériques. Paul de Fombelle, le directeur général.
Tout le monde a dû annoncer si son activité continuait. Les grands groupes ont dû annoncer en interne comment fonctionner. Donc on a envoyé des millions d'emails et de SMS les tout premiers jours du confinement. Et là, on marche très très bien et on n'a jamais eu autant de travail.
À tel point que l'entreprise a dû embaucher depuis la mi-mars, entretien en visio, à distance parfois. 5 personnes sont arrivées, dont Maïto, 24 ans.
J'ai eu beaucoup de chance. C'est vrai qu'on se sent un petit peu, entre guillemets, privilégié. Parce que quand on voit la situation en France, il y a beaucoup d'entreprises qui ont un peu de mal à s'en sortir. Alors qu'ici, ils arrivent quand même à recruter et à former. Donc je trouve ça assez incroyable.
Et il y a encore une quinzaine de postes à pourvoir dans cette société qui compte 95 salariés. Maximilien Carlier, Europe 1.
Et pendant ce temps-là, la locomotive allemande se met en marche. La coalition au pouvoir décide un plan de relance massif, un plan de 130 milliards d'euros. Et c'est votre éclairage éco ce matin, Nicolas Barré, un plan que ses partenaires européens réclamaient depuis longtemps.
Ben oui, souvenez-vous, bien avant la crise du Covid, plusieurs pays européens pressaient l'Allemagne pour qu'elle dépense plus. Elle a des réserves, elle doit jouer son rôle de locomotive, entendait-on, à Paris ou à Rome. Alors le Covid l'a convaincue, surmontant ses divisions, la coalition lance une relance à 130 milliards d'euros, dont 80 milliards pour les ménages, avec par exemple une baisse de 3 points de la TVA pour soutenir la consommation. Et puis à cela s'ajoutent 50 milliards en faveur des entreprises, de l'investissement, de la recherche. Berlin veut profiter de la crise pour accélérer la modernisation de l'économie et renforcer le capital des entreprises.
Ça veut dire aussi que la première économie d'Europe creuse l'écart avec ses voisins.
Exactement. Alors, on doit se réjouir de cette relance. Bien sûr, l'économie allemande va tirer le reste de l'Europe et dont la France. Le revers de la médaille, c'est que l'Allemagne va muscler son appareil productif et effectivement creuser l'écart avec nous en termes de compétitivité, d'investissement sur des secteurs d'avenir. Le plan de relance européen, lui, qui est en cours d'élaboration en ce moment, doit permettre à des pays qui ont moins de moyens, comme la France, de ne pas décrocher. Mais la machine économique allemande est en train de prendre des longueurs d'avance et elle le peut, car elle a beaucoup mieux géré ses finances publiques ces dernières années que nous. Ceux qui disent que la dette n'a pas d'importance ont aujourd'hui la preuve du contraire.
Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins dans le journal de 7h d'Europe 1.
Europe 1.
Et dans un tout petit instant, direction Versailles, qui s'est parée de ses plus beaux atours pour la réouverture demain. A tout de suite.
Europe 1, il est 7h13, la suite du journal, Hélène Zélani, Mathieu Béliard.
C'est Chambord qui ouvre le bal. Le plus connu des châteaux de la Loire rouvre ses portes aux visiteurs aujourd'hui, mais avec évidemment des mesures sanitaires renforcées. Ce sera au tour de Versailles demain.
Un peu comme la Belle au bois dormant, le château va donc se réveiller d'un long sommeil, l'occasion de se refaire une beauté. Diane Chénouda a eu la chance de le visiter en avant-première.
Là, on a au sol fait un marquage très simple avec des pochoirs qui représentent le roi soleil pour que les visiteurs puissent se maintenir à distance les uns des autres.
Le château ne laissera passer que 400 visiteurs par heure avec un circuit balisé à sens unique dans les appartements royaux. Thierry Weblay, le directeur de l'accueil et de la sécurité du château et domaine de Versailles.
Alors là, nous arrivons dans la galerie des glaces qui a été entièrement nettoyée. Les lustres ont été dépoussiérés, les miroirs ont été nettoyés. Le dernier grand nettoyage de cette nature a eu lieu, je crois, en 2007. Donc là, les visiteurs samedi vont retrouver une galerie absolument exceptionnelle.
Dans les jardins, on circule librement. Il y a encore des herbes folles, mais un très beau parterre a été créé. Alain Baraton est le jardinier en chef du domaine Trianon et du Grand Parc de Versailles.
Très heureux de vous accueillir dans le parterre africain qui célèbre l'Afrique. C'était l'année à l'origine Franco-Afrique. Et pendant que le parc était confiné, eh bien on s'activait auprès du Grand Trianon pour planter des palmiers, des grenadiers, des bananiers, quantité de plantes qui peuvent nous rappeler ce continent qu'est le continent africain.
Et les bassins ont retrouvé tout leur éclat pour le spectacle des grandes eaux musicales dès ce week-end.
Il y a une question économique aussi, hein, avec le domaine de Versailles, il faut bien le noter. 67 entreprises sous-traitantes qui travaillent en permanence avec le château, un millier d'employés. J'en parlerai à Catherine Pégard, présidente de l'établissement public du château du domaine de Versailles. Elle est mon invitée tout à l'heure, après le journal de 7h30. Merci beaucoup Hélène Zélani, c'était le journal de 7h. Vous êtes sur Europe 1, hein, il est 7h15.
Et les réponses à vos questions santé avec le médecin d'Europe 1, Jimmy Mohamed.
Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous.
Votre rendez-vous santé le matin sur Europe 1. Nous avons, Jimmy, très peu parlé de l'impact psychologique du confinement sur les enfants et les adolescents. Est-ce que vous pensez, Jimmy, que cela peut entraîner des conséquences sur leur santé mentale dans le futur ?
C'est vrai qu'on a fait subir une pression absolument inimaginable à nos enfants, soit directement en leur transmettant notre anxiété, soit indirectement en leur faisant porter une responsabilité énorme dans la transmission du virus, en particulier pour nos aînés. Il fallait à tout prix éviter de voir les grands-parents, de peur qu'ils tombent malades, alors que ces derniers auraient pu attraper le virus d'un voisin ou tout simplement en faisant leurs courses. Et il faut reconnaître que les enfants, et en particulier les adolescents, ont particulièrement bien respecté le confinement, alors que finalement, ils étaient très peu touchés par la maladie. Ils ont été très peu nombreux à tomber malades, c'est prouvé, avec des formes plutôt mineures, en dehors de quelques Kawasaki. Et le plus souvent, ils sont restés asymptomatiques. On leur a donc demandé un effort absolument colossal de solidarité. Ils ont été, disons-le clairement, à hauteur de l'enjeu. Pour ce qui est du post-confinement, on peut faire confiance à la capacité assez extraordinaire de résilience et d'adaptation des enfants, d'autant plus que nous pouvons enfin reprendre un peu le cours normal de nos vies.
D'ailleurs, Jimmy, pendant ce confinement, beaucoup d'enfants, mais aussi d'adultes, ont passé du temps sur les tablettes. Comment maintenant faire pour les en défaire ? D'ailleurs, faut-il les en défaire ?
Effectivement, Mathieu, avant le confinement, la tablette était quasi l'ennemi numéro 1 à la maison et c'est presque devenu notre meilleur ami. Alors, soit car il fallait télétravailler ou tout simplement parce que nous avions épuisé toutes les activités ou jeux possibles dès la première ou deuxième semaine de confinement et il faudrait, comme par magie, s'en défaire de nouveau. Probablement que cela va se faire de façon progressive, mais voilà peut-être une raison qui pourra convaincre les plus réfractaires. Lorsque nous passons beaucoup de temps sur notre téléphone, l'écran ou la tablette, l'œil devient quelque peu feignant et perd l'habitude de regarder au loin. Cela induit la contraction d'un muscle de l'œil qui déforme le cristallin et peut être responsable d'une myopie. Myopie qu'on observe particulièrement en Asie, où une étude du Lancet, celle-ci on peut lui faire confiance, avait révélé que 90% des jeunes Asiatiques étaient myopes. Un exercice tout simple peut limiter ce risque de myopie. Il suffit d'appliquer la règle des 3-20. Regardez toutes les 20 minutes. Pendant 20 secondes, un 20 pieds, soit environ 6 mètres. D'ailleurs, Mathieu, vous aussi, vous pouvez appliquer cette règle, car elle marche aussi pour les adultes.
Et il y a beaucoup d'écrans ici. J'en ai 3 devant moi, quelques-uns au fond du studio. Votre rendez-vous santé le matin avec Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1, que l'on retrouve à 15h, évidemment, dans Sans Rendez-vous, l'émission santé d'Europe 1 avec Mélanie Gomez. Merci, Jimmy.
C'est l'innovation du jour sur Europe 1. À 7h18, on retrouve Anissé Mbida.
Bonjour, Anissé.
Bonjour Mathieu, bonjour.
Le micro s'allume qui s'éteigne, on est en direct, c'est comme ça, c'est pas grave. Une innovation pour les cyclistes ce matin. Anissé, vous avez trouvé, plus fort que le masque anti-pollution, un purificateur d'air portable qui souffle de l'air propre au visage.
Oui, bah, ça devrait intéresser et ça devrait parler à beaucoup de cyclistes qui sont déjà retrouvés coincés derrière un camion, vous savez, avec le pot d'échappement, je sais pas si ça vous est arrivé, hein. Mais en général, on a du mal à tenir plus de 10 secondes. Alors, à quoi ça ressemble ? C'est un boîtier qui fait la taille d'une mangue, d'ailleurs ça ressemble à une mangue, on l'accroche au casque derrière la tête et il va aspirer l'air sale, le filtrer et envoyer de l'air propre directement sur le visage à travers un tuyau flexible. Donc c'est pas très discret, on vous a mis des photos sur le hashtag Europe 1 et je vous en ai apporté ici en plateau. Donc il y a comme un énorme tuyau qui arrive avec une coupelle au bout, mais ça a l'avantage d'être un véritable purificateur d'air, donc il supprime les fumées, les gaz, hein, contrairement à certains masques, et comme il touche pas le visage, mais il gêne pas non plus pour respirer si on est à bout de souffle. Après un sprint, par exemple.
Oui, mais s'il ne touche pas le visage, ça veut dire que l'air sale arrive à passer.
Ben oui, c'est le problème de ce système. Hein. S'il y a beaucoup de vent sur le côté, ben pchit, une grosse partie de l'air filtré va s'envoler. Ben, c'est pour ça qu'il propose aussi une version scellée qui ressemble un peu plus à un masque, celle-là. Alors, c'est un masque quand même un petit peu spécial puisqu'il y a toujours le tuyau qui relie au purificateur. Là, ça donnera l'impression d'avoir une espèce de masque, de mini-masque de plongée. Ça s'appelle iWind et ça démontre quand même toute l'innovation qu'il y a actuellement tout autour des équipements de protection contre les virus, contre les bactéries, etc.
Autour du vélo aussi, d'ailleurs. Oui. Ça coûte cher, Anissé ?
Pas trop, hein, autour de 100€. Et en principe, ça devrait être disponible cet hiver. Et du coup, il y aura même un chauffage qui vous sortira de l'air chaud au visage.
Le confort absolu. C'est pas si moche, c'est un peu bizarre. Mais c'est pas si moche pour le coup, vous allez le voir sur le hashtag Europe 1. Merci Anissé Mbida. L'innovation tous les matins, il est 7h20.
Le footballeur amateur est en danger. La programmation des matchs professionnels la saison prochaine n'arrangera pas les choses, nous dira Virginie Fulpin, son édito sport.
Le monde bouge, Axel de Tarlet, juste avant, à tout de suite.
La matinale d'Europe 1, 7h22, vous écoutez Mathieu Béliard.
Et Axel de Tarlet qui est avec nous en studio. Bonjour Axel.
Bonjour Mathieu.
Le monde bouge. Français et allemand donnent le coup d'envoi à un cloud européen. Axel, expliquez-nous s'il vous plaît. Le cloud, nuage en anglais, ce sont ces serveurs informatiques où sont logées toutes les données Internet.
Exactement, hein, que vous soyez une PME, un géant du CAC 40, un hôpital, un particulier, toutes vos données numériques, hein, les emails, les photos, vos documents Word, toutes ces informations sont logées dans des serveurs. C'est ce qu'on appelle le cloud. Et ces serveurs appartiennent quasiment exclusivement aux géants américains, Amazon, Google, Microsoft ou encore aux chinois Alibaba. Alors, ce qui pose évidemment des problèmes de souveraineté, d'autant qu'aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le Cloud Act, c'est-à-dire qu'un juge américain peut aller fouiller dans vos données sans votre accord et sans que vous le sachiez. Et puis cela pose en plus des problèmes de concurrence, car une fois qu'une entreprise a signé avec Amazon, par exemple, pour gérer ses données, ben c'est très compliqué ensuite de changer d'opérateur, car les données ne sont pas compatibles entre elles.
Et donc face à cela, Bruno Le Maire et son homologue allemand, Peter Altmaier, lancent Gaïa. C'est quoi ? Un cloud européen ?
Alors en fait, c'est une réponse européenne. C'est une plateforme qui va proposer à tous les Européens du cloud. Mais attention, pour être référencé sur cette plateforme européenne, il y a deux exigences. Un, la portabilité des données, pour pouvoir facilement changer d'opérateur et ne plus être piégé, comme on vient de le dire. Et puis deux, la transparence. Votre cloud devra clairement dire si, oui ou non, il est soumis à ce Cloud Act américain. Donc, si oui ou non, vos données sont réellement protégées. Alors, on va voir maintenant le succès de cette plateforme européenne, Gaïa, qui est déjà soutenue par tous les grands acteurs des filières télécom françaises et allemandes. Mais on voit bien, après l'Airbus des batteries, après le plan de relance Merkel-Macron, on voit bien qu'on assiste au réveil du franco-allemand avec un objectif, faire naître une alternative européenne dans un monde de plus en plus dominé par le couple Chine-Amérique.
Merci Axel de Tarlet, le monde bouge et vous le racontez tous les matins sur Europe 1.
7h24, l'édito sport de Virginie Fulpin sur Europe 1.
Bonjour Virginie.
Bonjour.
Le football amateur est en danger. La Fédération française de foot débloque une aide de 30 millions d'euros pour les clubs amateurs. Mais pour vous Virginie, il y a un autre problème. C'est la programmation des matchs professionnels la saison prochaine qui peut être, elle, défavorable au foot amateur.
Tu fais quoi dimanche ? Ben, y a foot. Oui, mais quel foot ? Tu vas jouer ou tu vas regarder ton équipe favorite à la télé ? Le choix va être cornélien à la saison prochaine. Le dimanche va désormais être une journée on ne peut plus charger. Si on regarde la programmation de la Ligue 1, il y aura un match à 13h, 4 rencontres à 15h, une à 17h et la grande affiche à 21h. Moi, ce qui retient mon attention, ce sont ces 4 matchs à 15h. C'est pile le moment où ont lieu les rencontres du foot amateur. C'est dimanche après-midi où on chausse les crampons partout en France, dans les petits clubs. Ce sont eux, à la base, hein, les footballeurs du dimanche. Alors comment ça va se passer ? Il y aura forcément chaque semaine quelques absents parce que leur club de cœur joue à ce moment-là. Il y aura aussi moins de monde autour des terrains de campagne parce que la concurrence sera rude entre un match de l'équipe locale et une rencontre du PSG ou de l'OM, par exemple. Oui, cette programmation peut avoir un impact négatif sur le foot amateur. Je sais bien que c'était prévu largement avant la crise. Hein. Mais aujourd'hui, j'ai peur que ce soit le coup de grâce pour certains clubs.
Ces matchs professionnels le dimanche après-midi, ça permet quand même aux familles aussi d'aller plus facilement au stade.
Oui, ça bien sûr, ça fait partie des arguments pour défendre cette programmation. On se dit aussi qu'en Angleterre, par exemple, les matchs ont lieu l'après-midi et que ça fonctionne très bien. Mais en disant ça, on ne raisonne qu'en termes de football comme spectacle, pas comme pratique sportive pour les amateurs. En Angleterre, il n'y a que la Première Ligue qui compte. Hein. Les amateurs sont vraiment la dernière roue du carrosse et j'ai pas forcément envie de voir ça en France. La passion des enfants pour le foot, elle se nourrit pas uniquement des matchs qu'ils vont voir en tribune, elle se nourrit aussi de la pratique de ce sport. Si on veut réfléchir à l'avenir du foot dans le pays, il faudrait que les professionnels et les amateurs soient main dans la main parce que sinon à la fin tout le monde y perdra. Aujourd'hui, les clubs amateurs pourraient perdre des sponsors, très touchés par la crise. Ils craignent aussi d'avoir moins de licenciés pour des raisons financières ou sanitaires. Si en plus la programmation télé leur met des bâtons dans les roues, ils vont être asphyxiés. Alors que la fédération les aide, très bien, qu'on demande des aides de l'État, ça me semble logique aussi. Mais si dans le même temps les diffuseurs leur savonnent la planche, ça sert à quoi ? Il faudrait tous tirer dans le même sens et là j'ai l'impression que c'est pas vraiment le cas.
Merci beaucoup Virginie Fulpin. D'accord ou pas, vous écoutez, vous partagez sur le hashtag Europe 1. C'est l'édito sport de Virginie Fulpin tous les matins, 7h27.
Europe 1. Dans un instant, la météo et les infos sur Europe 1. Mathieu Bellière sur Europe 1.
Et Laurent Cabrol pour la météo.
Si je vous dis un temps d'automne, vous dites calmos. Et si je vous dis un parfum d'automne, vous dites ça c'est mieux. Hein. Eh bien c'est un parfum d'automne. Voilà. Allez, un parfum d'automne avec des températures de 16 à 20 degrés, c'est tout ce qu'il y a de plus frais. Et puis les endroits où il y aura beaucoup de pluie quand même, plus que d'autres, les côtes de la Manche, la Champagne-Ardenne, la Lorraine, l'Alsace, la région parisienne, la Bourgogne, le Berry. Zut. Et quand même, dis papa, pourquoi il y a des nuages là-haut alors qu'on était confinés, il faisait très beau ? Eh bien ça se passera dans le sud-ouest, le massif central, beaucoup de nuages et un temps qui sera peut-être pas trop pluvieux. Enfin, le soleil, il est là en Méditerranée. Oh, mais il y a du vent, zut, j'en ai marre de ce vent. 50 à 80 km/h, voilà. Vous savez tout, presque tout. Bonne journée quand même.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. Bonjour Jérôme Lacroix.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, un nouveau journal à 7h30.
Il y a bien eu des pressions qui ont été faites, on les a appelés, on leur a envoyé des mails pour qu'ils signent un avenant qui prévoyait, pendant une période déterminée, une réduction de leur salaire.
Certains syndicats et avocats dénoncent de dangereuses dérives. Certains patrons pousseraient des salariés à accepter des baisses de salaire ou des changements de poste en dehors de tout cadre légal. Toujours des frictions entre les pays de l'Union européenne sur la réouverture des frontières. Pourrons-nous librement nous rendre chez nos voisins à partir du 15 juin ? Rien n'est tranché. Et puis, une végétation généreuse, les chants des oiseaux, nouveau visage des espaces verts en ville après le confinement. Et certaines municipalités font tout pour garder ces écrins de tranquillité.
Juste après ce journal, Catherine Pégard, présidente de l'établissement public du château, du musée, du domaine national de Versailles. Versailles qui rouvre ses portes demain. Avant l'opinion de Nicolas Bétou sur la crise à La République En Marche à 7h50, votre rendez-vous culture, c'est Périscope. Mathieu Charrier vous invite dans les coulisses de la plus grosse production française de l'année, le tournage du film Eiffel qui a repris. 7h31, très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1.
Écoutez le monde changer.
Baisser les salaires, moduler le temps de travail pour éviter de licencier alors que la crise économique frappe fort. Un chef d'entreprise en a légalement le droit s'il parvient à se mettre d'accord avec les représentants du personnel. Mais de plus en plus de salariés, notamment de petites et moyennes entreprises, font état de telles demandes de leur employeur en dehors de tout cadre légal.
Les baisses de salaire, mais aussi des changements de poste, voire des démissions forcées. Certains syndicats et avocats dénoncent de dangereuses dérives, Simon Rubin.
Dans son cabinet parisien, Emmanuel Gaillat, avocat en droit du travail, reçoit depuis deux mois des centaines d'appels à l'aide de salariés. Parmi les cas récurrents, de plus en plus d'employés dénoncent la pression exercée par leur patron. Dans certains cas, l'employeur profite de la crise pour baisser les salaires en dehors de tout cadre légal.
Des salariés d'une société informatique se sont vus proposer des réductions de salaire de façon informelle et sans que les instances représentatives du personnel ne soit consulté. Et donc, il y a bien eu des pressions qui ont été faites. On les a appelés, on leur a envoyé des mails pour qu'ils signent un avenant qui prévoyait, pendant une période déterminée, une réduction de leur salaire.
Autres exemples, ce salarié poussé à démissionner par son patron au motif qu'il faut soulager l'entreprise en dehors de tout cadre légal. Ou encore, ces nombreux cas de retard de paie ou ces salariés contraints d'accepter un changement de poste sous la menace d'un licenciement. Des pratiques qui ont cours pour la majeure partie dans les petites et moyennes entreprises.
L'assistance s'est tue pendant 8 minutes et 46 secondes, le temps qu'a passé agenouillé sur son cou le policier blanc qui l'a tué hier soir à Minneapolis. Émouvante cérémonie d'hommage à George Floyd. Premier recueillement devant le cercueil, un deuxième prévu demain en Caroline du Nord, là où il est né. Lundi prochain, hommage à Houston où il a grandi avant ses obsèques mardi.
Europe 1, il est 7h33.
Les personnels de tous les établissements pour personnes âgées, ceux qui travaillent auprès de personnes handicapées, des migrants ou des réfugiés, eux aussi, comme les soignants, pourraient toucher une prime exceptionnelle pour leur mobilisation face au coronavirus. Souhait du gouvernement qu'Europe 1 vous révèle ce matin entre 1000 et 1500 euros.
Où pourrons-nous voyager à l'étranger cet été? La levée des contrôles aux frontières est au menu d'une réunion des ministres de l'Intérieur de l'Union Européenne aujourd'hui.
Ce n'est pas la première. Isabelle Horry, on parle beaucoup de la date du 15 juin. Pourtant, tout le monde n'est pas d'accord. Alors, est-ce qu'on va avoir enfin de la clarté, Isabelle?
Eh bien, aujourd'hui, ça devrait se cristalliser autour du 15 juin, mais ça ne sera pas pur et parfait, c'est ce qu'un diplomate m'a répondu. Alors, pourquoi c'est aussi désordonné? C'est parce que chaque pays de l'Union arbitre à sa manière entre intérêts économiques et inquiétudes sanitaires. Prenons deux exemples. Les Italiens, ils ont été frappés les premiers, ils ont confiné les premiers, ils ont donc eu envie de dire benvenuti dès cette semaine. Les Grecs, eux, ont été peu atteints, ils sont très dépendants du tourisme, ils rouvrent donc le 15, mais ils se méfient des pays les plus frappés, d'où une mini-quarantaine annoncée pour ceux qui arrivent d'Île-de-France ou de Belgique. Les États sont en fait libres de garder des contrôles tant qu'ils estiment qu'il y a une menace pour les politiques publiques, celle de la santé par exemple. La Commission européenne pourrait leur demander de davantage justifier leurs décisions, mais elle préfère miser sur le dialogue et la coordination. Allez, je termine avec le message transmis par un diplomate européen. Dites à vos auditeurs d'être encore un peu patients pour leurs réservations de vacances. Dans 10 jours, on y verra vraiment plus clair.
Et le PDG d'Aéroport de Paris, Augustin de Romanet, est l'invité de Sonia Mabrouk à 8h15 ce matin. En France, le chantier politique de l'après-crise est déjà lancé et toujours dans l'air, un projet de remaniement.
Bonjour Mickaël Darmon.
Bonjour.
Alors, pas avant le second tour des municipales, hein, mais les ministres font déjà passer des messages et à chacun sa méthode.
Alors, il y a ceux qui le font savoir à tout le monde, hein, comme Gérald Darmanin, le chouchou du président. Le nouveau maire de Tourcoing a été encouragé à déclarer publiquement « je veux peser ». En clair, le ministre des Comptes publics veut changer de portefeuille. Il a dit il y a trois semaines dans le JDD. Alors on ne sait pas ce qu'il décrochera, mais ça sera sûrement un ministère important. Il y a les discrets comme Bruno Le Maire. Lui rêvait d'aller à Matignon tout en disant que ça ne l'intéressait pas. Même en cas de départ d'Édouard Philippe, il a compris qu'il n'aurait pas sûrement le job. Depuis, BLM le fait savoir en sous-main. Il aimerait bien garder Bercy pour piloter le plan de relance à la rentrée. Autrement dit, s'il n'est pas Premier ministre, il sera le premier des ministres. Autre ministre, autre méthode, comme Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture, qui critique ses petits camarades. L'ancien sénateur socialiste a récemment pris ses distances avec Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, sur les violences policières, tout en prenant la défense des victimes de racisme. Là, il s'agit de décrocher le label, bien vu à gauche, en cas de virage décidé par Emmanuel Macron. Tous ont le même objectif, se faire entendre au château, car ils savent que le sort Leur sort sera scellé dans les prochains jours.
Michaël Darmon le fait politique tous les jours dans la matinale d'Europe 1. Au Venezuela, l'opposant Juan Guaido se trouverait dans l'ambassade de France à Caracas. C'est en tout cas ce qu'affirme le ministre vénézuélien des Affaires étrangères. Pas de confirmation pour l'heure du Quai d'Orsay.
Vous l'avez peut-être constaté en retournant dans un parc ou un jardin public près de chez vous, si vous habitez en ville. L'herbe, la végétation qui a poussé, qui dépasse un peu partout, un nouveau visage après le confinement.
Mais aussi davantage d'oiseaux, de fleurs, et c'est une volonté dans de nombreuses villes de France, protéger cette biodiversité retrouvée. Virginie Salmen l'a constaté dans le parc de Bercy, 14 hectares en plein Paris.
Dans un parc parisien, des pelouses hautes de 20 ou 30 cm, ça ne passe pas inaperçu.
On a l'impression d'être vraiment un petit peu dans des champs. On est habitué à une pelouse bien nette, mais je pense qu'on va vite s'habituer.
Je pensais que c'était dû au confinement, qu'il y avait moins d'entretien.
Eh bien non, c'est volontaire. À Paris, comme à Versailles, Strasbourg, Rennes ou Arcueil, la municipalité laisse délibérément pousser certaines pelouses. Les brins d'herbe montent en graines, font des fleurs qui attirent et nourrissent les insectes et donc des oiseaux. Un signe, cette année, les mésanges en sont à leur troisième nichée. Les mauvaises années, c'est une seule. Et c'est grâce au calme du confinement, beaucoup de nourriture et une météo clémente. Dans les allées du parc, il y a même des orties de près d'un mètre de haut que Philippe Jacob, le responsable de l'Observatoire parisien de la biodiversité, chouchoute comme des nouveau-nés.
Ça veut dire que c'est quand même un retour de la nature, c'est une plante qu'on n'aime pas beaucoup, mais qui rend service à de très nombreux insectes, notamment toute une cohorte de papillons, ce qu'on appelle les vanesses, qui vont venir pondre spécifiquement sur les orties et dont la chenille ne mange que les feuilles d'ortie.
Donc si on veut garder ces papillons en danger, il faut laisser pousser les orties. Alors arrêter de tondre tous les trois jours, est-ce une tendance qui va durer? 43% des communes interrogées pendant le confinement se disent prêtes à ranger la tondeuse durablement.
Virginie Salmen.
Merci. Oui, ça sent l'herbe coupée fraîchement, même si on a rangé la tondeuse. Pardon, il faut suivre. Merci beaucoup Jérôme Lacroix. C'était le journal de 7h30 sur Europe 1. Très bon réveil à tous.
Europe 1. À suivre dans la matinale d'Europe 1.
8h15 ce matin, on va se projeter sur vos vacances et sur un moteur de l'activité économique complètement à l'arrêt, le secteur aérien, l'industrie aéronautique, celle du tourisme frappée par le confinement. Sonia Mabrouk reçoit Augustin de Romanet, PDG d'Aéroport de Paris. Dans deux minutes, nous serons au château de Versailles, je vous l'avais dit, avec Catherine Pégard. Et puis sur Europe 1, j'insiste, vous écoutez Le Monde Changé, tu as changé le monde. L'éloge funèbre à George Floyd, ces mots sont ceux du leader américain des droits civiques, le révérend Al Sharpton, cette nuit aux États-Unis. La colère, l'émotion, toujours. Et à 8h30, l'homme qui connaît la plus grande pression du week-end, je peux vous le dire, le chef de la police de Houston, au Texas. Houston, où a grandi George Floyd, où il sera enterré mardi, où son corps sera présenté à la population lundi. Le chef de la police de Houston, à 8h30, sur Europe 1. 7h39, tout de suite, on ouvre les grilles du château de Versailles.
Europe 1, il est 7h41, les acteurs de l'actualité en direct avec votre invité Mathieu Béliard, Catherine Pégard, présidente de l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles.
Bonjour Catherine Pégard.
Bonjour Mathieu Béliard.
Bonne nouvelle, sourire c'est vous ce matin, je l'entends à distance, la réouverture de Versailles demain. Je suis sûr que ça fait du bien, on va en parler Catherine Pégard, ça c'est votre actualité. Quelques questions cela dit à vous poser sur la période que nous venons de traverser. Versailles ferme ses portes, ses grilles plutôt, à la mi-mars, sans trop savoir quand vous pourrez rouvrir. 1000 salariés, 68 entreprises sous-traitantes qui travaillent avec vous. C'est tout un écosystème qui s'est trouvé, il y a quelques mois, stoppé, mis à l'arrêt.
Absolument. Absolument, et comme vous le venez de le dire, ça se passe d'une heure à l'autre, et je crois que c'est totalement inédit dans l'histoire du château de Versailles. On a repéré, pendant toute cette période, on a eu le temps de lire les archives, et on a repéré une seule ressemblance, c'est le moment où le château avait fermé lors de la déclaration de la Deuxième Guerre mondiale.
1939. On se retrouve comparé à 1939. Vous avez dit au journal Le Point, le modèle économique de Versailles a été anéanti. Anéanti, c'est fort anéanti, pourquoi ?
Anéanti parce qu'à l'instant T, nous avons perdu l'essentiel de nos ressources. Nous avions, comme vous l'avez dit, 8 millions de visiteurs, 80% étaient des étrangers et la billetterie représente autour de 75% de nos ressources propres, lesquelles constituent 85% de notre budget. Alors ce sont trois chiffres pour dire que effectivement, nous devons rentrer dans un autre monde.
Et nous parlions justement des frontières, de la discussion sur l'ouverture des frontières et d'Augustin de Romanet, le PDG d'Aéroport de Paris, qui sera à 8h15 sur Europe 1. Catherine
J'espère
Pégard.
Qu'il va nous annoncer de bonnes nouvelles.
C'est le mal que je vous souhaite, Catherine Pégard. Je comprends que sans les Asiatiques et sans les Américains, Versailles ne tient pas, quoi.
ne tient pas. En tous les cas, il faut recréer un autre modèle économique. Et ça, c'est difficile, ça prend du temps. Mais vous comprendrez qu'aujourd'hui, j'ai pas trop envie de parler d'économie.
Réjouissons-nous. Je voudrais aussi rendre hommage aux personnels qui ont travaillé chez vous pendant cette période de confinement. Parce qu'il ne faut pas croire, l'activité a été stoppée, mais cet écosystème, ce microcosme, vous n'avez pas chômé pendant le confinement.
En fait, l'activité ne s'est jamais arrêtée et je crois que du jour de la fermeture à ce matin, nous n'avons cessé de penser au jour où les grilles du château de Versailles pourraient se réouvrir. Et il y a d'ailleurs quelque chose d'émouvant à penser que les mêmes qui les ont fermées vont les réouvrir. Je le dois à tous les agents du château de Versailles qui se sont parlé pendant toute cette période, qui pour certains d'entre eux étaient loin de Paris, confinés et qui pourtant appelé tous les jours pour vérifier l'état du château de Versailles. Et nous avons fait vivre ce château, bien sûr au ralenti. Nous avons continué à entretenir les jardins. J'entendais tout à l'heure que les herbes folles poussaient dans les jardins de Paris. Ben, c'était la même chose au château de Versailles. Nos jardiniers ont entretenu les jardins pour qu'ils montrent leur meilleur visage demain. Et puis nous avons fait des choses qui paraissent parfois anecdotiques, mais qui sont importantes. L'horloger est venu chaque semaine remonter les pendules pour que le château ne soit pas plongé dans un horrible silence, parce qu'on dit que les mécanismes des pendules anciennes peuvent s'enrayer très vite. Un de nos conservateurs a joué chaque jour l'orgue de la chapelle royale pour ne pas qu'il se désaccorde. On a dépoussiéré la galerie des glaces, qui ne l'avait pas été depuis 2007 lors de la restauration de cette galerie. Et tout ça, ce sont des petits boulots, si j'ose dire, mais des petits boulots qui nous prennent beaucoup de temps. Et donc, on a mis à profit cette période sinistre, par ailleurs, pour faire ces travaux.
C'est intéressant, l'horloger, il faut qu'il vienne. Les horloges anciennes, elles vont s'enrayer, elles vont. L'orgue qui se serait désaccordé, évidemment. Merci d'avoir donné ces détails, Catherine Pégard. La réouverture ce week-end, demain, un lieu emblématique comme Versailles, ça n'est pas anodin. Il faut que nos auditeurs comprennent que c'est presque un exploit que d'avoir réussi à rouvrir Versailles si tôt.
Oui, je crois que c'est un petit exploit, bien sûr. Mais ça montre une chose, c'est que Versailles a toujours été le symbole de la France, l'un des symboles de la France aux yeux du monde. Et il a accompagné toute l'histoire de la France dans les bons moments, dans les moments les plus tragiques. Et par exemple, on s'aperçoit que les grandes eaux ont toujours rejoué quand la vie revenait en France. Après la Première Guerre mondiale, ce sont les grandes eaux qui jouent dans les jardins de Versailles pour animer la vie qui reprend. Et je crois que cette force symbolique de Versailles, ben, il ne faut pas l'oublier aujourd'hui. C'est Versailles qui nous donne cette chance de pouvoir continuer à vivre dans le monde d'aujourd'hui.
Et c'est du rayonnement de la France aussi dont il est question. Alors on l'entendait dans le journal de 7h, les portes du château s'ouvrent, 400 personnes par heure, 7 fois moins que d'habitude, hein, c'est bien ça ?
Oui, à peu près. Alors, parce que vous savez que la jauge, elle change beaucoup au château de Versailles. Si vous venez au mois de février, habituellement, vous avez environ 7 000, 8 000 personnes par jour. Et puis, quelquefois, le 15 août, vous en avez plus de 30 000. Eh bien là, aujourd'hui, on va faire des visites privées élargies pour les Français, essentiellement. Et je crois qu'ils vont découvrir un Versailles qu'ils ne connaissent peut-être pas.
Si on y va ce week-end, c'est presque une chance.
C'est presque une chance. Il faut pas abuser non plus de dire que c'est une chance, parce que évidemment nous, notre mission, c'est d'ouvrir ce château sur le monde, comme vous l'avez dit. Il a toujours été le lieu de visite touristique. Hein. Le Louis XIV ouvrait son château aux touristes. Je crois qu'il a écrit le premier guide touristique en France avec sa manière de montrer les jardins de Versailles. Et donc nous poursuivons cette même idée que le château de Versailles ne peut pas vivre sans le monde. Donc il faut venir au château de Versailles. C'est pas seulement un lieu de pouvoir, c'est pas seulement un musée, c'est aussi un musée de plein air avec ses 400 statues, ses 800 hectares. Et donc ce sont aussi des promenades, c'est du plaisir de venir à Versailles.
Et ça le sera ce week-end, j'en suis sûr, Catherine Pégard, avec des masques à l'intérieur, la sécurité, le protocole sanitaire évidemment respecté et la réussite de la réouverture des grilles du château, du domaine de Versailles. Merci Catherine Pégard d'avoir pris quelques minutes pour les auditeurs d'Europe 1 ce matin, présidente de l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles. Je vous souhaite un très bon week-end de réouverture. Les acteurs de l'actualité,
merci.
En direct sur Europe 1, 7h48.
Europe 1. Périscope, dans les coulisses du tournage du film Eiffel qui a repris il y a tout de suite avec Mathieu Charrier. Europe 1, il est 7h50, vous écoutez Mathieu Béliard.
Et à 7h50, nous retrouvons Mathieu Charrier pour Périscope. Bonjour Mathieu.
Bonjour à tous.
Le rendez-vous culture de la matinale d'Europe 1. Les tournages de cinéma ont été stoppés pendant près de 3 mois en raison du coronavirus, bien sûr. Mais ça y est, certains commencent à reprendre très lentement. Et vous nous emmenez ce matin, Mathieu, en exclusivité pour Europe 1, sur le tournage du film Eiffel.
Ah oui, plus grosse production française de l'année, 23 millions d'euros de budget, on se met dans l'ambiance.
R2 sur 8, premier.
Silence dans le couloir, merci.
Cadré. Voilà, cadré, ça tourne. On est donc au château de Vaugiens, à Saint-Rémy-les-Chevreuse, château qui s'inspire de l'architecture des grandes villas italiennes. Et depuis hier, le tournage d'Eiffel a effectivement pu reprendre. En quelques mots, le film va raconter comment Gustave Eiffel, au moment d'imaginer la construction de la tour Eiffel, retrouve son amour de jeunesse, Adrienne Bourgès.
Un tournage qui a donc repris avec, on l'imagine, de nombreuses mesures barrières.
Évidemment. Alors ça commence dès l'entrée du parc du château, verdoyant, prise de température sur le front, masque obligatoire, gel hydroalcoolique, ça c'est du classique. Mais plus original, toute l'équipe, y compris Romain Duris, qui joue Gustave Eiffel et Emma McKay qui campe Adrienne Bourgès, toute l'équipe a été testée au Covid-19, résultat négatif heureusement. Les maquilleuses et coiffeurs sont équipés de visières, de blouses, de charlottes sur les cheveux, mais ensuite quand ça tourne, eh bien, en plus des techniciens qui doivent rester à bonne distance, il a fallu adapter le scénario. Écoutez Martin Bourboulon qui avait fait les deux films Papa ou Maman et qui réalise donc ce Eiffel.
On a par exemple une grande scène de déjeuner qui est la première rencontre réelle entre Eiffel et la famille Bourgès. D'un déjeuner où on avait prévu une douzaine de personnes, on a finalement opté pour une solution où ils seront plus que 10, avec une distance un peu plus importante que celle qu'on avait prévue, mais qui est une fois à la caméra, avec un système technique sans rentrer dans les détails de longue focale et de disposition dans l'espace, va pas se ressentir à l'image.
Alors, c'est l'obsession des réalisateurs, hein, qu'au final, le public ne se rende compte de rien. Par chance, les scènes de foule du film Eiffel avaient été tournées avant le confinement.
Mais ça a un surcoût pour les productions, tout cela, j'imagine.
Bien sûr, et les assurances ne couvrent pas l'arrêt d'un tournage pour pandémie. D'ailleurs, pour reprendre ces tournages, c'est l'État et le CNC qui ont dû mettre en place un fonds afin de garantir le risque Covid. Écoutez Vanessa Van Zullen, la productrice du film Eiffel.
Nous envoie une première bible. Tous les producteurs ont sauté en l'air parce que c'était à ce moment-là où ils avaient dit que les acteurs devaient apporter des masques. Alors vous imaginez bien que personne ne pouvait tourner, surtout nous, un film historique avec des masques en 1860 et 1886. Donc heureusement, voilà, les syndicats, tout le monde s'est parlé et on a trouvé des solutions.
Et c'est un surcoût élevé ou pas ?
C'est épouvantable. C'est des centaines de milliers d'euros qu'on a dû dépenser en plus avec l'interruption, plus le protocole Covid.
Voilà, des centaines de milliers d'euros. Et aujourd'hui, personne ne sait qui va payer évidemment ce surcoût.
Et ce film, Eiffel, on va le découvrir bientôt ?
Eh bien, en principe, en février prochain. Et ça promet, hein, pour le tournage pré-confinement, ils avaient notamment reconstitué un pied de la tour Eiffel, hauteur 25 mètres. Et on devrait donc découvrir toutes les différentes étapes de la construction de la tour, sur fond, bien sûr, de cette passion amoureuse.
Merci Mathieu Charrier. C'était Périscope et en exclusivité pour Europe 1. Mathieu, vous nous avez emmené, vous avez emmené les auditeurs d'Europe 1 dans les coulisses du tournage de ce film. Et je pense, tiens, la demi-heure, je me dis, entre le château de Versailles et l'origine de la tour Eiffel, on est quand même dans le patrimoine ce matin. Merci Mathieu. 7h54.
Sur Europe 1, l'opinion de Nicolas Bétou.
Emmanuel Macron. Bonjour Nicolas, pardon.
Bonjour Mathieu.
Je dis la vérité aux auditeurs, on s'est dit bonjour hors antenne, mais on se dit toujours bonjour à l'antenne. Comment allez-vous Nicolas ?
Je vais très bien, merci.
Emmanuel Macron a lancé des consultations tous azimuts, politiques, patrons, syndicalistes, pour préparer la sortie de crise du coronavirus. Mais il y a, dans le dispositif, une pièce qui va lui faire défaut et compliquer la reconquête.
Et oui, et cette pièce, ce rouage, c'est la République en marche. Ça peut paraître étrange parce que c'est son parti, l'instrument de sa conquête du pouvoir, c'est le bras armé de sa politique et pourtant, tout y tourne de travers depuis un certain temps. C'est d'abord dû à la jeunesse du mouvement, bien sûr. Dès le début, des députés totalement novices se sont découragés. Ils croyaient avoir du pouvoir, les naïfs, alors qu'ils n'étaient qu'un parmi des centaines de parlementaires. Ils croyaient faire la loi alors qu'ils devaient faire les marchés. Première déconvenue.
Et donc, il y en a eu d'autres.
Ah oui, des lâchages par-ci, par-là. Alors, rien de préoccupant au début, surtout pour un parti qui détient la majorité absolue, jusqu'au jour où il a perdu justement cette majorité. Les départs du groupe parlementaire se sont multipliés, avec ces dernières semaines deux grosses voies d'eau. Et cette fois, le problème n'était pas la jeunesse du mouvement, mais sa genèse, le fameux « et de gauche et de droite ». La gauche du parti s'est très vite considérée abandonnée, décalée vis-à-vis de l'orientation jugée droitière des réformes fiscales et sociales. Et les centristes du mouvement, à leur tour, ont filé vers la droite pour fonder un mini-groupe parlementaire et devenir enfin ce nain qui, juché sur les épaules du géant, lui permet de cueillir des fruits. Enfin, je veux dire, de décrocher la majorité.
Des départs vers la gauche, d'autres vers la droite, ça peut peut-être permettre au parti d'Emmanuel Macron de conserver son centre de gravité, et de gauche et de droite.
Alors voilà, ça aurait pu, sauf que la préparation du second tour des municipales est en train d'envoyer un solide message de droite. Dans 5 des 10 plus grandes villes françaises, La République En Marche s'est rangée derrière le parti Les Républicains. Lyon, la ville du retour raté de Gérard Collomb, a été un détonateur. À Bordeaux, Toulouse, Rouen, Tours, à chaque fois, le parti du président a fait allégeance à la droite, laquelle lui a rendu la politesse, par exemple, à Strasbourg. Alors bien entendu, les organes dirigeants des deux partis prennent bien soin d'expliquer que ces accords sont strictement locaux et qu'ils n'engagent en rien sur la suite au niveau national.
Pas d'accord entre partis, donc, que du local.
Voilà, mais c'est un peu une posture, car en réalité, ces accords sont le reflet de ce qui se passe à l'intérieur même du parti du président, et à sa tête en particulier. Les deux dirigeants du mouvement ne se parlent plus sur fond de tensions politiques, et les petites mains de ce même mouvement remarquent que le délégué général, Stanislas Guérini, s'appuie de plus en plus autour de lui sur des personnalités venues de la droite, ex-UMP ou républicains. Voilà, petit à petit, le positionnement central d'En Marche devient un positionnement centriste. Et comme le disait François Mitterrand, en France, le centre n'est ni de gauche, ni de gauche.
Nicolas Bétou, l'opinion de Nicolas Bétou. Si vous m'aviez dit qu'on allait terminer sur une citation de François Mitterrand, Nicolas Bétou, que l'on retrouve tous les matins, juste avant le journal de 8h. Merci beaucoup, 7h57.
Dans un instant, la météo avec Laurent Cabrol sur Europe 1. La matinale d'Europe 1 avec Mathieu Béliard.
Et avec Laurent Cabrol pour la météo.
Je disais tout à l'heure, parfum d'automne, je rajoute maintenant vertige d'hiver. Il y a forcément de la pluie si vous êtes sur les littorales atlantiques, si vous êtes présent aussi sur la vallée de la Seine. Là, il fait mauvais. Sur le flanc est, il fait mauvais. Et nous aurons des nuages et de la pluie sur une bonne partie de la France aujourd'hui. Des pluies surtout en région parisienne, Berry, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace et Nord. Une petite chance de voir le soleil sur le sud-ouest et encore. Et une grande chance d'avoir du soleil sur le bassin méditerranéen. Voilà pour l'essentiel d'une journée très très désagréable dans l'ensemble. Pour la saison, avec des températures maximales de 15 à 20 degrés seulement.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. François Geffrier est avec nous. Bonjour François.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Écoutez le monde changer.
Europe 1, il est 8h01.